l'heure de retrouver Elodie L'Argenton pour le journal. Bonjour Elodie.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Les virements frauduleux explosent en Polynésie. D'après l'Institut d'émission d'Outre-mer, 1650 fraudes ont été comptabilisées l'an dernier pour une valeur de plus de 246 millions et demi de francs. Rouler sans permis va bientôt coûter beaucoup plus cher, jusqu'à 500 000 francs et 2 ans de prison. La grève des praticiens hospitaliers se poursuit. Les négociations entre le syndicat et le gouvernement ont échoué hier. La dépêche de Tahiti sera bientôt imprimée par le groupe Moox, le groupe de son concurrent Tahiti Info. Et puis alors que la COP23 se déroule en Allemagne, on apprend que les atolls des Tuamotu résistent très bien pour le moment au changement climatique.
Et avant de développer ces titres, cette information, le feuilleton de l'équivalent fonds vert se poursuit.
Oui, d'après l'AFP, cet équivalent fonds vert a été réintroduit dans le budget des Outre-mer à la suite d'un amendement de Maïna Sage, un amendement de la députée polynésienne déposé contre l'avis du gouvernement. Rappelons que cet équivalent fonds vert est destiné à la Polynésie, mais aussi à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, pour les aider à lutter contre les effets du dérèglement climatique. Il s'agit concrètement de prêts à taux zéro pour financer des projets d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Le gouvernement ne souhaitait pas reconduire cette mesure en 2018, mais elle est donc réintroduite dans le budget Outre-mer à la suite de l'amendement de Maïna Sage. On se souvient que la députée polynésienne avait vivement réagi à l'annonce de la suppression de l'équivalent fonds vert. Elle avait dénoncé une décision incohérente avec le discours porté par le président Emmanuel Macron sur le climat. Édouard Fritch, lui, s'était dit rassuré par les gages donnés par Emmanuel Macron. D'après le président du pays, la disparition du fonds vert ne voulait pas dire que la Polynésie ne serait plus aidée en matière de lutte contre le réchauffement planétaire. De nouveaux moyens devaient être annoncés le mois prochain. On ne sait pas si ce sera toujours le cas avec la réapparition de cet équivalent fonds vert.
Alors bon, là, une mini-virgule. L'Institut d'émission d'Outre-mer vient de publier un rapport sur les fraudes bancaires dans tout le Pacifique français.
La Polynésie est particulièrement touchée, principalement par les virements frauduleux dont sont victimes les professionnels et les institutions. Les explications de Valentine Bluet.
En Polynésie, 1650 cas de fraude bancaire ont été comptabilisés en 2016 pour une valeur de 247 millions de francs. Principale fraude au Fénois, les virements bancaires, le phishing, qui consiste pour un escroc à collecter les informations bancaires de sa victime, puis de se faire un virement vers l'étranger. En Polynésie, le montant moyen de cette fraude a augmenté de 330% en 2016 et il se situe, écoutez bien, à 18,5 millions par opération. C'est énorme. Ce qui fait dire à l'IOM que les victimes polynésiennes appartiennent très majoritairement à la sphère professionnelle ou institutionnelle. Rapporté à la population, le taux de virements frauduleux dans le Pacifique français est d'ailleurs 20 fois supérieur à celui de la métropole. C'est donc un enjeu majeur pour l'économie locale. Derrière les virements bancaires, les fraudes à la carte bancaire sont en baisse de 20% en Polynésie. Enfin, le montant total des chèques frauduleux est lui aussi en forte baisse par rapport à 2015. Spécificité tout de même, le montant moyen des chèques frauduleux émis en Polynésie est bien plus élevé qu'ailleurs en France, 316 000 francs par chèque en moyenne.
Et puis attention, conduire sans permis risque de coûter beaucoup plus cher. Le gouvernement va présenter un texte à l'Assemblée.
Les sanctions contre les conducteurs qui roulent sans permis ou avec un faux permis seront désormais passibles de 500 000 francs d'amende et 2 ans de prison. Actuellement, la peine encourue est de 280 000 francs d'amende et de 2 mois de prison.
Et puis échec des négociations entre le gouvernement et les praticiens hospitaliers.
Les deux parties se sont retrouvées hier, mais aucun protocole d'accord n'a été signé. Le ministère de la Santé estime malgré tout qu'il y a eu des avancées. On écoute le ministre Jacques Rénal au micro de Vaïté Orali Pambrin.
Bien sûr que c'est toujours des discussions qui durent longtemps parce qu'il y a beaucoup de détails à régler. Donc on a regardé tous les documents qui nous étaient proposés. On en a discuté, on a été d'accord sur certains points, moins d'accord sur d'autres. Et puis voilà, donc maintenant ils doivent se retourner vers leur base et présenter le résultat de ces discussions. Si ça leur convient, ils le diront. Si ça leur convient pas, ils le diront aussi.
Vous nous parlez de 2 points bloquants hier soir.
Les points bloquants, on les a réglés. Donc, quand je ne veux pas discuter dans le détail, je veux attendre de voir ce que disent les praticiens hospitaliers. Il y a eu des avancées sur de nombreux points, et puis il y a eu des points qui ne peuvent pas, en l'état, à l'heure actuelle, évoluer. Et ce n'est pas des points bloquants.
Le syndicat des praticiens hospitaliers considère, lui, qu'il n'est pas du tout pris en considération. Marc Lévy, le président du syndicat, affirme même que toutes ces demandes ont essuyé un refus. Pour les grévistes, le coup de grâce a été la proposition du gouvernement de réviser le protocole d'accord signé en 2016. Marc Lévy.
Le protocole d'accord signé en 2016 est remis en cause. Donc ça veut dire qu'il est la reprise d'ancienneté est amputée d'un certain nombre de conditions qui avaient été acceptées en toute connaissance de cause, puisqu'il y avait la signature d'un ministre de la fonction publique avec la vérification de ses services juridiques. Et finalement, le changement de personne change les interprétations et les points les plus importants sont remis en cause. Pour les autres points, il y a des points de blocage. Il y a eu véritablement un esprit de mainmise sur les revendications des PH qui ont transformé ça en directive ministérielle alors que nous sommes en négociation. Il y a eu un déni d'un certain nombre de points.
Ces points bloquants, ce sont le statut des praticiens hospitaliers et le fonctionnement de l'hôpital. Les médecins grévistes doivent se réunir ce matin en assemblée générale pour décider de continuer ou non le mouvement de grève.
Autre mouvement de grève chez EDTNJ.
La grève de la CSIP est effective. Un piquet de grève a été installé à Pourreil au siège d'EDT et plusieurs agences sont fermées ce matin. Le syndicat dénonce les méfaits de la non-application des accords conclus entre EDT et le gouvernement de la Polynésie. Au cœur du problème, le refus du pays d'actualiser la grille tarifaire de l'électricité depuis plusieurs mois.
Et c'est Albert Moux qui va imprimer la dépêche de Tahiti, une information loin d'être anodine dans le paysage médiatique local.
Un accord commercial a été conclu entre le patron du groupe La Dépêche, Dominique Auroi, et son concurrent de Tahiti Info, Albert Moux. Le quotidien et les deux magazines Tiki Mag et le gratuit de Tahiti vont être imprimés avec la rotative du groupe Moux. Antoine Samoyau.
L'annonce a été faite mardi aux salariés du groupe La Dépêche de Tahiti. Le dernier quotidien payant de Polynésie sera imprimé à partir de début décembre par la rotative de son concurrent. Dès la semaine prochaine, le gratuit de Tahiti sera également imprimé par la société Pacific Press d'Albert Moux. Pour Tiki Mag, la date reste encore à déterminer. Reste maintenant à savoir quel sera l'avenir des employés, principalement de l'imprimerie de La Dépêche et au-delà du groupe de presse tout entier. L'annonce a évidemment suscité de nombreuses inquiétudes chez les salariés. Contacté hier, Dominique Auroi a refusé de commenter, je cite, une opération commerciale relevant de la sphère privée. Mais selon nos informations, le patron de La Dépêche a promis en interne qu'il n'y aurait aucun licenciement mais des reclassements dans ses autres sociétés. Pour l'anecdote, il y a encore 3 ans, le groupe Fenoacom d'Albert Moux imprimait son magazine télévisé grâce à l'imprimerie de La Dépêche. Les temps semblent donc avoir bien changé dans le secteur de la presse écrite locale.
Les territoriales de 2018 arrivent à grands pas et la campagne d'inscription sur les listes électorales a démarré.
Sont ouvertes jusqu'au 30 décembre, dernier délai pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits. Ça se passe en mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile, ou alors par courrier en envoyant un formulaire disponible en ligne. Et enfin, pour certaines communes, ça se passe directement sur Internet. Tous les renseignements et informations sur radio1.pf.
Et puis, non, nous dit-on, les atolls des Tuamotu ne sont pas en train d'être engloutis par la mer.
Depuis les années 60, 92% des 111 îles et atolls des Tuamotu étudiés par des chercheurs ont soit conservé leur taille, soit ils se sont agrandis. Et l'une des scientifiques qui a travaillé sur ce sujet, Virginie Duva de l'Université de La Rochelle, précise que ça correspond aux autres études réalisées dans la région. Les résultats obtenus pour le Pacifique sont unanimes. Les îles coralliennes n'ont connu au cours des 50 à 100 dernières années aucune contraction qui pourrait annoncer leur prochaine disparition. Si les atolls résistent aussi bien, c'est parce que ce sont des sites d'accrétion. Le corail produit les matériaux, les vagues transportent les sédiments, rechargent les îles et compensent donc la montée des eaux. Problème, les activités humaines empêchent parfois ce phénomène naturel. C'est ce qui préoccupe le plus les chercheurs. Et rappelons au passage que la COP23, la 23e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, se déroule actuellement en Allemagne sous la présidence des îles Fidji.